Fabien Lebrun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un peu le parrain non officiel de notre journée sans ordi sur PFM, puisqu'on vous a déjà interviewé lors des deux précédentes éditions de cette journée sans ordi. Vous êtes docteur en sociologie à l'Université de Nantes, membre de la revue Illusio, auteur de livres On achève bien les enfants, écran et barbarie numérique, ça c'était au bord de l'eau en 2020, et plus récemment donc de Barbarie numérique, une autre histoire du monde connecté, à l'échappée, sorti l'année dernière en 2024. Alors finalement, ce dernier livre, c'est un peu dans la continuité du premier, quelque part, vous remontez la filière de fabrication de nos terminaux numériques.
Exactement. Il y a une filiation, on va dire, une continuité dans la réflexion sur tout simplement la place de la technologie dans notre société. Et c'est vrai que je me suis penché dans un premier temps plus sur les divers impacts, impacts divers et variés des écrans sur les enfants. Et là, je me suis penché, même si j'avais un petit peu entamé le travail en ayant un petit chapitre sur le travail des enfants dans les mines au Congo, et c'est quelque chose que j'ai voulu un petit peu creuser, c'est le cas de le dire, amplifier, densifier, et partir plus sur ce qu'on pourrait appeler la matérialité du numérique, et vraiment se pencher sur de quoi, comment sont composés ces appareils connectés, à partir de quelles ressources naturelles, matières premières. Et là on rentre dans toute une géopolitique mondiale. Et on voit en quoi le numérique est central dans la production de marchandises, dans le capitalisme mondialisé, et qui repose notamment sur une économie militarisée, une économie de guerre au Congo, en effet.
Premier élément, c'est sûr, vous avez parlé de matérialité, parce que c'est une chose que les promoteurs du numérique essaient finalement de faire oublier, c'est que les outils numériques utilisent un grand nombre de ressources, alors que les promoteurs du numérique donnent l'impression que tout est fait comme ça de manière un petit peu magique, quoi.
En effet, c'est alors moi, il y a par rapport à ce que vous dites, il y a plusieurs, on va dire, éléments de langage ou narratif qui accompagnent ce développement du numérique, d'une nouvelle technologie, comme quoi ce serait l'allié, le support, même la solution à la crise écologique, climatique, énergétique, etc. Avec tous ces langages très très épurés, éthérés, comme le cloud, comme le virtuel, comme le cyberespace, comme tous ces mots, finalement, on a peu de prise vraiment réelle, concrète sur ces composants. Et évidemment, le mot magique, à savoir la fameuse dématérialisation, qui, de mon point de vue, est vraiment un concept mensonger, puisqu'il participe largement à invisibiliser toute la production électronique en amont, sans laquelle, évidemment, tous ces gadgets, tous ces objets, tous ces produits n'existent pas. Et c'est vrai que plus au fil de l'histoire, on voit comment les technologies se développent, plus on miniaturise, on technologise tous ces gadgets, plus on les rend efficaces, productifs, pratiques, avec de nombreuses notifications, applications, services, etc. Et bien plus finalement, on a besoin de métaux qu'on peut appeler critiques, stratégiques. Et c'est vrai que j'aime bien souvent donner un exemple, puisque c'est un peu le symbole de notre quotidienneté et de notre monde contemporain, c'est le téléphone portable. En fait, de par cette évolution, on voit bien comment il exerce, si je puis dire, de plus en plus une forme de pression terrestre, là, vraiment très concrète, physique, géologique, dans le sens où il requiert toujours plus de métaux. Je peux juste donner trois petites dates pour voir vraiment cette évolution, c'est très concret. Les premiers téléphones fixes, pour le coup, des années 50-60, on avait besoin d'une dizaine de métaux pour les fabriquer, ce qui était quand même relativement peu. Si on saute aux années 90, donc moment de l'avènement de la téléphonie mobile, des réseaux Internet, donc les premiers téléphones portables, pour le coup, qu'on pourrait assimiler aujourd'hui un petit peu au téléphone à clapet ou au téléphone à touche, ça requérait une trentaine de métaux, donc vous voyez quand même qu'on triple. Et puis aujourd'hui, tout simplement, dans les années 2020, eh bien on a quasiment doublé, puisque les smartphones sont composés d'une cinquantaine de métaux, d'une soixantaine de matières premières, et pour être plus précis, d'une cinquantaine de métaux. Je crois que le dernier iPhone 16, précisément, c'est 64 matières premières. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est des chiffres, mais en fait, à travers ces chiffres, on voit bien justement que à travers cette évolution technologique, et plus notre monde se développe, se numérise à travers ces nouvelles technologies, qui évidemment, et on peut pas le nier, sont plus efficaces, plus pratiques, proposent plus de choses, mais dans le même temps, et ben voilà, exerce une pression terrestre géologique, et évidemment, ça va susciter une industrie minière, une extraction minière assez folle, assez toujours plus intensifiée. Et c'est pour ça que souvent on fait rarement le parallèle entre ce boom minier ou ce regain extractiviste qu'on observe, que tous les spécialistes des métaux observent au début des années 2000, et en même temps c'est aussi la révolution numérique, c'est l'informatisation du monde qui repose sur cette pression sur les sols, les sous-sols. Et évidemment, on imagine bien que la planète est inégalement répartie en termes de métaux, et il y a des territoires qui sont plus convoités que d'autres. Quoi.
Et justement, ce qui vous a amené à vous intéresser en particulier au Congo, alors puisque c'est un pays très riche en minerais, vous intéressez à plusieurs aspects de l'exploitation des minerais là-bas, les conditions d'exploitation, les conséquences écologiques, et puis surtout le lien entre la guerre qui s'y déroule depuis le milieu des années 90 et la guerre commerciale pour l'accès aux ressources.
Exactement, et c'est vrai que par rapport à la médiatisation qu'on a pu avoir en début d'année, où ça a été un tout petit peu relayé par ce qu'on peut appeler les grands médias ou les médias dominants, mais finalement c'est vrai depuis 20-25 ans, où on a souvent, soit on parle pas de ces guerres, soit on en parle sur un versant, on va dire, ethnique ou communautaire ou ce genre de choses, alors que la dimension économique, et pour le coup qui est aussi technologique, industrielle et commerciale, est très peu évoquée, ou de façon caricaturale. Toujours est-il que, effectivement, et là c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai toute une dimension historique dans cette recherche, pour montrer que finalement, cette révolution numérique qui apparaît fin années 90, début années 2000, ou informatisation du monde, peu importe, eh bien elle est vraiment déterminée et dépendante de ces guerres au Congo, dont la première guerre du Congo démarre en 96. Évidemment, il y a un contexte local, il y a une géopolitique régionale et continentale avec des causes, notamment, on va dire, communautaires, foncières, des tensions entre différentes communautés et entre différents pays, notamment entre le Congo, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Mais par-dessus ce contexte, entre guillemets, ce qui surplombe, c'est aussi le secteur extractif mondial qui a besoin de certains métaux, dont on trouve justement en Afrique centrale, en Afrique des Grands Lacs, et les multinationales ont évidemment largement, mais aussi les puissances mondiales, identifié ce territoire comme celui qui pourrait fournir les métaux, et ça trompe pas, puisque en 95-96, des opposants aux Congolais, appuyés par des armées voisines qui voulaient voir partir ou chasser Mobutu du pouvoir, forment une coalition qui est elle-même financée justement par des multinationales minières, notamment canadiennes, pour alimenter notamment à l'époque Microsoft en coltan et d'autres entreprises, et donc en fait vont financer cette guerre du Congo, et donc on voit se mettre en place des contrats qu'on peut appeler très avantageux, Léona, entre Kabila, donc qui est à la tête de cette coalition, et des multinationales. Et donc en fait cette première guerre du Congo va vraiment être en partie aussi déterminé notamment par le financement de ce secteur extractif. Et ça fait presque 30 ans que, bien qu'il y ait des accalmies, que les guerres se calment, ou des fois on parle de conflit armé, on ne sait plus trop comment la nommer, toujours est-il qu'à chaque renouveau ou militarisation, notamment de la partie orientale du Congo, là où il y a principalement les mines, eh bien on voit bien la correspondance entre, par exemple, l'avènement du smartphone ou l'avènement de la tablette, et que chaque innovation technologique est suivi d'une production minière conséquente au Congo. Et donc voilà, le lien est vraiment inextricable entre développement technologique et malheureusement guerre interminable qui voilà, on va célébrer, si je puis dire, l'année prochaine, les 30 ans de ce conflit. Et malheureusement, je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter.
Avec aussi, il y a beaucoup de choses dans ce conflit. Il y a la fabrication d'armes qui rentre en jeu. Un conflit dont on parle comme d'une guerre mondiale africaine qui fait un grand nombre de morts, de réfugiés depuis des dizaines d'années.
Les conséquences, évidemment, si on va sur le coût humain et environnemental et écologique, est monstrueux. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une disproportion entre la faible couverture médiatique ou médiatisation de ce conflit et l'ampleur vraiment du désastre humain. Moi, je considère que c'est une des pires tragédies contemporaines, hein, puisque bon, genre, je sais que des fois les chiffres, il faut s'en méfier, ça parle pas toujours, mais pour donner quelques indications, on parle quand même de 7 millions de déplacés dans la partie orientale du Congo, hein, ce qui constitue malheureusement ce qu'on pourrait appeler un record mondial, bien qu'aujourd'hui ça soit un peu concurrencé par le Soudan, qui vit aussi une crise terrifiante. On a 4 millions de réfugiés, donc vraiment des Congolais qui fuient la guerre depuis une vingtaine d'années. On a des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers de creuseurs, donc de mineurs, qui travaillent dans les mines au Kivu, au Katanga, pour extraire donc, tous ces minerais, ce coltan, ce cobalt, ce lithium, cet étain, l'or, etc., qu'on retrouve tous dans nos appareils connectés, terminaux numériques, mais aussi dans les infrastructures et les usines digitales, où je pense par exemple aux câbles sous-marins et souterrains fabriqués à partir du cuivre, ou la technologie Wi-Fi à partir du germanium. Bon, bref, tous ces minerais et toute cette exploitation et commercialisation des ressources naturelles se fait principalement par des groupes armés, y compris aussi par l'armée et la police congolaise, et qui sont donc responsables d'atrocités, de crimes. Et donc là, je vous ai évoqué les déplacés, les réfugiés. On a évidemment des massacres. On a beaucoup d'enfants qui meurent sous l'effondrement, l'éboulement dans les mines. On a aussi la question, évidemment, qui a été un petit peu médiatisée, des violences sexuelles, des viols, des mutilations génitales, notamment par le médecin gynécologue congolais Denis Mukwege, qui d'ailleurs m'a fait l'honneur d'une préface pour le livre. Bon, voilà, donc on a tout un tas d'atrocités. Le nombre de morts, même si les chiffres sont discutés, en tout cas c'est en millions. Certains évoquent le chiffre de 5-6 millions, enfin bon, ça dépasse l'entendement. Et malheureusement, depuis janvier, ça s'est accéléré. Et on comptabilise encore les morts en nombre de milliers. Donc voilà, évidemment, il y a aussi d'autres, il y a tout un contexte, il y a d'autres causes, mais ce qui surplombe, et la cause principale, c'est quand même cette exploitation minière pour nourrir le monde, tout simplement, en métaux qui sont importants pour le numérique, mais pas seulement, parce que c'est vrai qu'on se focalise un peu sur le secteur numérique. Moi, je parle plutôt de métaux technologiques qui, de toute façon, sont souvent les mêmes et servent aussi à la dite transition énergétique pour l'éolien et le photovoltaïque. Tout comme l'industrie de l'armement, vous avez évoqué effectivement les guerres, donc on peut même parler de méthode de guerre pour faire des guerres de métaux, si je puis dire. Et puis aussi l'industrie spatiale de la conquête de l'espace, chère à des gens comme Monsieur Musk ou Monsieur Bezos.
Concernant l'accès aux métaux et la guerre des métaux que vous avez évoquée, on a l'impression qu'il y a aussi maintenant un discours décomplexé, hein, entre la force militaire et force commerciale, hein, Trump sur l'Ukraine, le Groenland. Voilà, on affiche clairement son envie, son besoin d'accès aux matières premières et affiche une volonté voilà, de guerrière, des possibilités guerrières pour accéder à ces ressources.
Bah évidemment, et c'est intéressant, vous avez raison d'évoquer ça, puisque et c'est vrai que là encore, c'est peu médiatisé, mais on évoque le Groenland, on évoque l'Ukraine, mais il faut quand même savoir que depuis quelques semaines, et là c'est vraiment très actuel, Monsieur Trump, l'administration de Trump, est plus ou moins en train, en tout cas s'est immiscé dans les négociations de paix, les accords de paix au Congo, justement entre le Congo et le Rwanda, qui est agressé, qui se retrouve de l'autre côté de la frontière et donc qui pille les minerais, notamment pour alimenter l'Union européenne et le reste du monde. Et il s'avère que Trump, sur le modèle de l'Ukraine, est en train de proposer une sorte de deal, si je puis dire, deal minier, entre la possibilité pour les entreprises américaines, même si elles sont déjà présentes, d'être encore plus, d'avoir des avantages, des facilités pour exploiter l'Est du Congo, et puis, en échange, une forme de sécurité ou de protection, ou de sécurité militaire. Donc on voit exactement, comme vous dites, que de façon très décomplexée, en tout cas, on saisit bien pour le coup la nature de ces guerres, et plus généralement, on peut saisir que le XXIe siècle sera sans doute l'objet de ces guerres de ressources pour ces projets industriels complètement démentiels, pour alimenter une croissance folle qui repose notamment sur ces technologies qu'on retrouve au sein du mode de production, au sein du système industriel, et aussi évidemment en tant que secteur à part, secteur industriel à part, à savoir l'industrie électronique pour tous ces appareils qu'on vend par milliard. Je rappelle quand même qu'on vend 1,5 milliard de smartphones par an. Bon, voilà. Et donc pour tout ça, pour que ce capitalisme se maintienne, pour alimenter constamment cette croissance, eh bien ça vient du sol, du sous-sol, de la croûte terrestre. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les projets extractivistes sont complètement fous, hein. Je pense qu'on peut vraiment parler de délire, de folie. puisque on a bien compris, et ils ont bien compris, ces élites et ces industriels, que la Terre est limitée, les ressources naturelles vont être limitées, on est face à des limites planétaires, et donc on commence à explorer, ou en tout cas à se projeter, sur des extractions minières, par exemple, dans les océans ou les fonds marins. Également, alors, extraction minière ou extraction d'hydrocarbures sous les pôles, hein, Arctique, Antarctique, et puis pourquoi pas, puisque la folie n'a plus de limite, hors planète, extraterrestre, hein, Monsieur Musk ou Bezos parlent d'extraction sur des astéroïdes, sur les autres planètes, sur Mars, la Lune, etc. Donc on voit bien qu'on est parti sur des trajectoires complètement folles, tout en sachant que, voilà, au bout d'un moment, la méga machine, le système va bugger, ou en tout cas va être fortement limité, et c'est là où il va y avoir des enjeux monumentaux, et c'est là où il va falloir, je pense, replacer la technologie dans notre quotidien, et repenser cette technologie, et repenser aussi les besoins qu'on a en termes technologiques, puisque de toute façon, on sera obligé de tendre vers des formes de décroissance technologique, qui inévitablement sont des décroissances minérales, et des décroissances tout court de production de marchandises et de gadgets divers et variés.
Oui, justement, c'est un peu ma dernière question. Si on se place du point de vue des citoyens lambda, des mouvements sociaux, face à cette méga-machine que vous décrivez, face au gigantisme des problèmes posés, on peut vite sombrer dans le pessimisme. Par quoi commencer ? D'abord, peut-être réfléchir, plus de technocritique dans nos vies, et puis aussi cette possibilité que vous évoquez aussi en fin de votre livre, en conclusion, sur la dénumérisation.
Ah ben, je pense que évidemment on n'a pas le choix, c'est-à-dire que soit on le pense, on l'organise, soit on va le subir. Et c'est là où effectivement je pense que une des premières pistes dont on n'a pas le choix, et c'était une des motivations du livre, comme du précédent d'ailleurs, c'est de ce qu'on pourrait appeler politiser cette question technologique, puisque la technologie est partout, on nous impose du numérique partout comme étant la solution, alors que c'est le problème. Donc déjà, d'une part, et évidemment, j'aurais pas de solution en clé en main toute faite, mais il est évident que, et c'est aussi la raison de ce type d'entretien, et le fait d'en discuter encore plus, de mettre cette question sur la place publique, et quand je dis politiser la technologie, c'est vraiment prendre en main que cette question soit débattue par le maximum de monde, par toute la société civile, par l'ensemble des citoyens. Ce ne doit pas être seulement des élites qui décident si on fait de l'intelligence artificielle, des voitures électriques, de la 5G, etc. Ça implique tout le monde, ça a tellement des implications monumentales sur la terre, sur l'eau, sur la forêt, mais aussi sur les rapports sociaux, sur les rapports de domination, d'exploitation, que évidemment, que si on prétend être une démocratie, eh bien les choix technologiques doivent être des choix démocratiques et en toute connaissance de cause. Et quand on connaît cette pression, comme je disais tout à l'heure, sur tous ces éléments naturels, sur cette impossibilité de continuer sur cette trajectoire, eh bien je pense que toutes les assemblées, toutes les administrations, toutes les radios, les télés, les journaux, je ne sais quoi, toutes les entreprises, et avec toutes les personnes qui sont impliquées dedans, les salariés, les employés, les citoyens, peu importe, devraient avoir leur mot à dire et devraient tout simplement décider si ces technologies sont louables, tenables, soutenables. Si oui, bah tant mieux, on continue. Si elles ne le sont pas, on les développe pas. Bon, vous voyez qu'on est loin, mais évidemment, ça passera par cette politisation, à savoir que il faut en discuter un peu partout. C'est aussi la raison pour laquelle j'interviens, par exemple, dans des lycées auprès des jeunes. Je pense qu'il y a vraiment une vraie formation citoyenne et politique autour de ces enjeux qui finalement concentrent. C'est pour ça que je parle souvent du numérique comme l'enjeu du XXe siècle. C'est quand même un peu la destinée d'une grande partie de l'humanité et tout simplement de la planète Terre.